libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Donc je vous rappelle que la radio dispose d'un web chat, donc vous pouvez utiliser votre navigateur web préféré, si possible libre, et vous rendre sur le site donc de la radio causecommune.fm, cliquer sur chat et nous rejoindre sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 2 avril 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Donc le site web de l'April, c'est april.org, A-P-R-I-L.org, et vous retrouvez d'ores et déjà une page consacrée à l'émission du jour, avec un certain nombre de références, et cette page sera bien entendu mise à jour après l'émission avec les références qu'on citera au cours de l'émission. Je vous souhaite une excellente écoute et nous allons passer au programme du jour. Donc, dans quelques secondes, nous allons commencer par la chronique de Jean-Christophe Becquet, président de l'April, donc la chronique intitulée « Pépites libres ». Alors normalement, Jean-Christophe est avec nous au téléphone. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
On se retrouve tout de suite. D'ici une quinzaine de minutes, nous allons parler de notre sujet principal, donc les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, ce qu'on appelle les GUL, avec mes trois invités que je présenterai tout à l'heure, trois invités de talent et représentant chacun un groupe d'utilisateurs ou d'utilisatrices de logiciels libres. En fin d'émission, nous aurons la chronique de ma collègue Isabella Vanni, Le Libre fait sa com, et nous aurons l'occasion notamment de parler d'un événement qui va se passer à Lyon ce week-end. Et à la réalisation, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Alors, il vient de se lever pour parler dans le micro, il ne s'y attendait pas. Donc tout de suite, place au premier sujet. Donc nous allons commencer par une intervention donc, de Jean-Christophe Becquet. Jean-Christophe est président de l'April et sa chronique intitulée « Pépites libres » a pour objectif de nous présenter une ressource sous licence libre. Donc ça peut être un texte, une image, une vidéo, une base de données sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Et les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public. Alors aujourd'hui, Jean-Christophe, tu souhaites nous parler d'un jeu de données diffusé sous licence ouverte qui s'appelle le RNE, le Répertoire National des Élus. Alors Jean-Christophe, nous t'écoutons.
Oui, bonjour. Le RNE est donc une ressource en open data, c'est-à-dire une donnée produite par une administration ou une collectivité et mise à disposition des citoyens sous licence libre. RNE est l'acronyme de Répertoire National des Élus. Ce jeu de données, fourni par les préfectures et les services du ministère de l'Intérieur, contient des informations sur les personnes titulaires d'un mandat électoral. On y trouve des informations comme le nom, le sexe, la date de naissance, la profession, ainsi que les dates de début et de fin de mandat pour les différents étages du millefeuille administratif, les communes, les départements, les régions, l'État et l'Europe. Cela peut paraître surprenant, mais cette mise à disposition sous licence libre des informations sur les élus est en fait très récente. Elle date du mois de janvier 2019. Le collectif Regards Citoyens avait d'ailleurs salué la publication fort attendue de ce répertoire national des élus, tout en regrettant la fréquence de mise à jour, seulement trimestrielle, alors que les élections partielles impactant les données ont lieu toute l'année. On peut espérer que cela évolue avec le temps. Le RNE est un fichier très utile pour l'action citoyenne. Par exemple, pendant les débats sur la directive droit d'auteur au Parlement européen, l'April a appelé les personnes attachées à un Internet ouvert à contacter leurs représentants au Parlement européen. Et ce n'est pas parce que le résultat du vote nous déplaît qu'il faut arrêter d'agir. Bien au contraire. Pour ma part, j'adresse chaque jour à un acteur local dans ma région, depuis 2010, un courrier de sensibilisation aux enjeux du logiciel libre. Pour mener à bien ce type d'action, une liste des élus s'avère très utile. Un des critères pour mesurer la réussite d'une publication en open data est ce qu'on appelle les réutilisations. Ce sont des exemples d'usage du jeu de données pour un article, une infographie ou une application. Le RNE, publié sur le portail national data.gouv.fr, a fait l'objet de plusieurs réutilisations. Par exemple, le site polypark.fr permet de retrouver, en fonction de sa commune de résidence, les élus qui nous représentent. Autre exemple, un article du Dauphiné qui s'est appuyé sur le RNE pour montrer comment se répartissent nos élus par profession, par sexe ou par âge, en fonction du type de mandat. Et ce type d'analyse n'est pas réservé à des experts. Un élève de 3e s'est servi du RNE pendant son stage chez Talab pour réaliser, avec des logiciels libres, une analyse statistique sur nos élus. Ces ressources en open data améliorent la transparence de l'action publique. Elles encouragent l'innovation. Et elles constituent un formidable support pédagogique. Par exemple, j'enseigne les systèmes d'information géographique, des logiciels qui permettent d'analyser les données inscrites sur un territoire. Il y a 10 ans, je n'avais pas d'autre choix que de faire mon cours sur les parcs naturels des États-Unis, faute de données libres disponibles en local. Aujourd'hui, on trouve des données sur n'importe quelle commune ou région de France. Grâce aux licences libres, mes étudiants peuvent utiliser ces informations sans restriction dans leurs projets personnels ou professionnels. J'aimerais donc, pour conclure, inviter nos auditeurs à rechercher, à demander et à réutiliser des données en open data en fonction de leur centre d'intérêt. Le champ est très large. Ça peut concerner la vie politique, l'économie, les transports, mais aussi le patrimoine avec les bibliothèques et les musées qui partagent de plus en plus de bases de connaissances en open data. Nouvelle pépite, sans doute, pour des chroniques en perspective.
Oui, ça ouvre le champ à de nouvelles chroniques pépites libres. Donc, c'est, comme tu le dis, c'est très récent, c'est janvier 2019. Donc, je suppose que c'est le ministère de l'Intérieur qui a publié ce répertoire national des élus.
Alors, effectivement, une partie des données viennent du ministère de l'Intérieur et le reste des préfectures départementales, voilà, en fonction des différents échelons d'élus.
Ah oui, d'ailleurs précisons donc que ce répertoire en fait comprend 9 échelons, il y a 9 fichiers, donc ça va des conseillers au niveau du conseil municipal jusqu'au maire en passant par les sénateurs, députés, les représentants aussi au Parlement européen, donc c'est très très large, donc 9 fichiers. Et comme tu le dis, une des réutilisations donc, qui a été faite sur le site, donc, c'est du Dauphiné, donc, c'est de regrouper toutes ces données dans un seul fichier, notamment parce qu'il y a simplement des élus qui, je suppose, apparaissent plusieurs fois dans plusieurs fichiers, parce qu'il y a encore le cumul des mandats qui existe. Donc un travail qui a été fait par le Dauphiné, c'est de regrouper. Les informations qui sont dans ce fichier, c'est quoi? C'est nom, prénom, date de naissance, profession, ou est-ce qu'il y a d'autres types de données concernant les élus?
Non, dans ce fichier-là, c'est tout. Donc, c'est effectivement des informations assez minimalistes. Un des intérêts, une réutilisation possible, ce serait bien sûr de croiser ce fichier avec d'autres jeux de données pour avoir des informations complémentaires. Là, un des exemples que je donnais, le site Polypart croise, mais c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a une base de données d'adresse dans laquelle on saisit en fait son adresse qui correspond à son lieu de résidence. Et en fonction de ça, avec une base de données adresse et le répertoire national des élus, ça nous sort pour chaque échelon du millefeuille administratif l'élu dont on dépend, le maire, le président du conseil départemental et régional les élus nationaux et européens. Députés, sénateurs et les parlementaires européens.
D'accord. Et où peut-on trouver ce site, enfin la source originale, sur quel site?
Donc ce fichier est hébergé sur le portail national français d'Open Data, dont l'adresse est data.gouv.fr. Et j'ai mis donc le lien direct pour télécharger le RNE en particulier, donc un des multiples jeux de données hébergés sur le portail data.gouv.fr, sur la page de l'émission, sur le site de la prime.
D'accord. Donc on précise que quand tu parles d'open data, donc ce sont des données ouvertes. On a consacré une émission sur le sujet en octobre 2018, et évidemment on reconsacrera des émissions. Donc ces données sont diffusées sous une licence ouverte, hein, qui permet la réutilisation. Y compris pour des usages commerciaux, donc c'est très important. Tu as cité tout à l'heure cet élève de 3e qui a fait un stage chez Etalab. Alors il faut préciser peut-être ce qu'est Etalab. Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est Etalab?
Donc, Etalab est un service de l'État qui s'occupe de la politique nationale Open Data, c'est-à-dire qui vise à encourager les administrations en particulier et à accompagner également les collectivités dans la publication de jeux de données publiques sous licence libre. Et donc, effectivement, ce jeune donc élève de troisième a fait un stage d'une semaine chez Etalab. Pendant lequel, en fait, on lui a demandé de travailler sur le répertoire national des élus pour y extraire des statistiques. Et le service Etalab est très gros consommateur de logiciels libres. Et donc, le travail qui a été fait par cet élève de troisième a été également réalisé avec des logiciels libres.
Alors, on va peut-être indiqué pour Etalab qu'on espère que ça va se poursuivre parce que les annonces récentes, les événements récents et notamment les mouvements chez Etalab, notamment avec le départ d'un contributeur majeur d'Etalab et les propos tenus par le nouveau directeur, le nouveau DINSIC, hein, Direction Informatique Numérique et... Alors j'ai un trou de mémoire sur ce que signifie DINSIC, mais en gros, la nouvelle personne en charge de la stratégie informatique de l'État, ses propos dans une récente interview laissaient penser quelques inquiétudes par rapport à la partie logiciel libre données publiques, mais bon, on verra sur les faits, puis on verra aussi l'impulsion que donnera le nouveau ministre chargé du numérique, donc Cédric O, qui remplace Mounir Majoubi. Tout à l'heure, tu parlais de Regard Citoyen. Regard Citoyen a mis en place donc une copie, ou en tout cas une sauvegarde journalière des données, de manière à être sûr qu'elles resteront disponibles régulièrement. Donc c'est sur le site de Regard Citoyen, je crois que c'est mis à jour tous les jours, si je me souviens bien.
Oui, tout à fait. Il y a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est effectivement une préservation de l'accès à la donnée en cas de défaillance ou de changement de politique au niveau de Etalab qui gère donc le site datagouv.fr. Et un autre intérêt, c'est de pouvoir faire des comparaisons sur l'historique de ce fichier. Et donc, j'évoquais tout à l'heure effectivement le point de progrès sur la fréquence de mise à jour. Aujourd'hui, Etalab annonce que ce fichier doit être mis à jour de manière trimestrielle. Donc, comme il a été publié pour sa première version début janvier, on n'a pas encore eu de mise à jour sur ce fichier. Moi, ce qui m'intéresserait énormément, par exemple, dans mon département, c'est de savoir quelles sont les communes qui ont changé de maire depuis le début de l'année, pour avoir les noms des nouveaux élus et pouvoir leur adresser un courrier de sensibilisation au logiciel libre. Et donc, voilà, en attendant que ce fichier passe avec une mise à jour qu'on pourrait espérer hebdomadaire, voire quotidienne, hein, on peut effectivement utiliser voilà, ce service mis en place par Regard Citoyen qui, dès qu'une seconde version du fichier sera parue, permettra de voir les différences, les évolutions entre les versions successives.
Tout à fait. Donc, grâce à l'aide d'une des invitées ici présentes, j'ai la signification exacte de DINSIC, donc c'est Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État. J'en profite peut-être qu'un jour tu nous parleras un petit peu donc de cette initiative que tu mènes depuis 2010 d'envoyer un courrier chaque jour à un élu de ta région, parce que si je calcule bien, ça doit faire pas loin de 25 000 courriers, ou alors peut-être que je. Ou 2500, non, plutôt 2500, peut-être pas 25 000. Mais en tout cas, c'est vraiment très important et donc je pense que tu nous feras un petit retour. J'en profite pour signaler aussi, comme on parle de données ouvertes, que donc tu interviendras normalement le 30 avril dans une émission consacrée à OpenStreetMap, hein, qui est, voilà, c'est donc le 30 avril, sans doute avec Christian Quest d'OpenStreetMap et sans doute une troisième personne. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Jean-Christophe, sur cette pépite libre?
Non, c'est tout pour aujourd'hui. Je répète mon appel. Consommer et demander de l'open data pour enrichir à la fois le contenu de ce portail opendata.gouv.fr et les portails régionaux et départementaux qui se développent un peu partout sur le territoire. Au plus on aura des données libres dans tous les domaines, sur tous les territoires, et au plus ça rendra possible des initiatives intéressantes et originales.
Eh bien écoute, c'est une belle conclusion. Merci Jean-Christophe. On se retrouve le 30 avril pour une intervention donc avec OpenStreetMap et notamment ce que tu fais dans ta région. Et on se retrouvera en mai pour la prochaine chronique Pépite Libre. Nous te souhaitons de passer une belle journée.
Entendu, bonne suite d'émission, à très bientôt, au revoir.
Merci, donc nous allons passer une petite pause musicale. Le morceau s'appelle Dolling par Cyber SDF et on se retrouve juste après. Vous êtes de retour, enfin plutôt vous êtes toujours sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Vous écoutez l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Nous venons d'écouter Dolling par CyberSDF. Les références se trouvent évidemment sur le site de l'April dans la page consacrée à l'émission du jour. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter donc sur les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Donc je vais présenter mes invités déjà. Nous allons commencer par donc Magali Garnero. Bonjour Magali.
Salut Fred.
Didier Clermonté. Bonjour Didier.
Bonjour Fred.
Romain Volpi. Bonjour Romain.
Bonjour Fred.
Voilà. Alors on va vous présenter, on aura pu intituler ce sujet Bouge ton gueule. Oui, j'ai osé le faire, parce qu'en fait, l'acronyme pour groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, c'est GUL, G-U-2-L. Donc, c'est un groupe qui existe depuis au moins une vingtaine d'années, et on va échanger un petit peu avec nos invités, qui, chacun et chacune, sont bénévoles dans un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices. Hein. Magali, on présentera évidemment Parinux, la région parisienne, Didier Clermonté, l'INES, l'Essonne, et le régional de l'étape. Plutôt régional de la région de Lyon, Romain Volpi pour l'association lyonnaise qui s'appelle l'ALDIL et qui interviendra ensuite dans la chronique avec Isabella pour présenter un événement important dans, on va dire, l'agenda libriste annuel qui sont les journées du logiciel libre de Lyon qui ont lieu à la fin du week-end. Alors déjà, première chose, on fait un petit tour de table de présentation pour savoir ce que vous faites un petit peu dans la vie. Donc allez Magali, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Magali Garnero?
Alors je suis évidemment libraire, voilà, je ne suis pas du tout informaticienne et j'anime ma petite librairie de quartier dans le 11e arrondissement de Paris où je vends pas mal de livres dont certains, de Framabook, des Floss Manuels, bref des livres que vous trouvez nulle part ailleurs. Et je suis également trésorière de Parinux et administratrice à l'April.
Et Framasoft aussi.
Et membre de Framasoft.
Et membre de Framasoft. Donc elle est multicasquette. Et pour les personnes à qui le nom Magali Garnero ne dirait rien, vous pouvez chercher Bouquinette.
Voilà, avec un Y.
Avec un Y, elle est plus connue sous ce nom-là. Didier Clermonté, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Donc je suis retraité, j'ai 71 ans. J'ai été de base ingénieur des travaux publics. J'ai fait toute ma carrière essentiellement en bureau d'études génie civil. Donc j'ai édité des notes de calcul. Et donc, oui, j'ai développé des petits logiciels techniques. Et maintenant, je suis le président de l'INES, qui est le GUL de l'Essonne. L'INES comme Linux Essonne.
Très bien. Et Romain Volpi, tu fais quoi?
Du coup, moi, je travaille dans une petite société d'informatique sur Lyon. Et sinon, je suis administrateur de la LIL, donc qui est Association Lyonnaise de Développement de l'Informatique Libre, et membre de l'April et d'ILIS.
Très bien. Élise, c'est Saint-Étienne.
C'est Lyon-Saint-Étienne.
Lyon-Saint-Étienne, d'accord. Ok. Alors, première question collective, évidemment. C'est quoi un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres? Donc, c'est quoi un GUL? D'où ça vient ce terme? Et quels sont les objectifs de ces groupes? Quels sont les publics visés? Qui veut commencer? Allez, Magali.
Alors, GUL, c'est la traduction de LUG, Linux User Group. On va dire que c'est des gens bien qui se sont retrouvés ensemble pour utiliser des logiciels libres et puis surtout les défendre, les promouvoir et les améliorer.
Alors, effectivement, historiquement, le nom anglais vient de Linux Users Group. Alors, Linux, c'est une partie du logiciel libre. Donc, c'est un noyau de système d'exploitation. En français, ça a été francisé après pour GUL, groupe d'utilisateurs de logiciels libres. Parce que, effectivement, initialement, c'était plutôt des gens qui utilisaient du système d'exploitation que nous, on appelle GNU Linux. Pour rendre aussi le travail, mettre en valeur aussi le travail du projet GNU, notamment de la Fondation pour le logiciel libre de Richard Stallman. Mais aujourd'hui, voilà, même si initialement c'était des gens qui utilisaient plutôt un système de type GNU Linux, aujourd'hui ça regroupe plutôt des gens qui utilisent globalement du logiciel libre. Alors ça peut être du logiciel libre d'ailleurs sur des environnements privateurs comme Windows ou Mac, voire même d'autres systèmes libres comme les systèmes de la famille BSD. Donc, ça existe depuis combien de temps? Il y a d'ailleurs une petite question. Vos trois groupes, vos trois GUL. Alors, on va utiliser le terme GUL, ça ira plus vite, hein, comme ça, pendant l'émission. Vos trois GUL existent depuis combien de temps? Romain, l'ALDIL à Lyon.
Une vingtaine d'années.
Une vingtaine d'années. L'INES en Essonne.
Depuis 2000, 19 ans.
19 ans, ah oui. Et Parinux
A priori, 98.
Je confirme. Je confirme, et étant plus vieux que Magali et étant déjà à l'époque dans ce, activiste logiciel libre, j'ai assisté à la naissance de Paris Linux. Donc là, c'est des groupes qui existent depuis assez longtemps. Et effectivement, sans doute que les premiers, ça doit faire 20, 25 ans qu'ils ont existé. Maintenant, il y a des groupes qui existent depuis plus récemment, évidemment. Donc là, on a trois types différents. Quelles sont les principales activités, quels sont les principaux objectifs d'un GUL ? Didier.
Alors, je ne parlerai pas en règle générale, je parlerai pour l'INES. Pour moi, mon but, quand on installe un système GNU Linux, les gens disent « vous êtes bien gentil, mais après, qui va me faire de l'assistance ?» Donc, mon but, c'est que les gens aient un point, ils savent que tous les 15 jours, ils peuvent venir 53 rue Montessui, à Juvisy, et ils seront dépannés dans la mesure du possible. Et c'est un point de maintenance, un point d'assistance. C'est de l'assistance à utilisateur, en fait.
Donc, c'est une permanence qui a lieu tous les
15 jours.
Tous les 15 jours. Donc, tous les 15 jours, l'INES, vous avez donc une permanence physique où les gens peuvent venir. Oui. C'est quoi ? C'est le soir, le week-end ?
Le samedi après-midi.
D'accord. Donc ça, c'est important parce que c'est une activité que n'ont pas forcément tous les GUL, d'avoir une permanence régulière. Donc pour les gens qui sont en Essonne, donc c'est à Juvisy. On mettra l'adresse évidemment sur le site, mais sinon vous allez sur le site de l'INES. Donc c'est l'INES.org.
L'INES.org.
Avec deux S, hein, L-I-N-E-2-S.
Comme l'IN et Essonne.
Essonne, exactement. Donc la principale activité, donc voilà, le but, c'est d'offrir de l'aide aux personnes qui découvrent le logiciel libre. Et de le faire en plus de façon récurrente, quelque part, avec un rendez-vous régulier. Est-ce que vous organisez aussi des conférences à l'INES, en dehors de ces ateliers ?
Historiquement, c'est arrivé. Depuis que je suis président, non. Mais historiquement, c'est arrivé, oui. Il y a eu des conférences. L'INES a un vidéoprojecteur. Bon, pour l'instant, c'est un peu en sommeil.
D'accord. Et quel type de public vient à ces rendez-vous ?
Absolument n'importe qui.
N'importe qui.
N'a pas de tranche d'âge.
D'accord, vous n'avez pas un public type, ça pourrait être un public de jeunes qui découvrent l'informatique, ou au contraire comme toi, de retraités qui veulent s'y mettre, qui veulent changer de système, ou de professionnels.
Il y a absolument de tout.
De tout. D'accord. Côté Parinux, alors, quels sont les publics visés, les principales activités, même si après on pourra rentrer un peu plus dans le détail, de Parinux ?
Ah, si je ne rentre pas dans le détail, on va dire que c'est tout public. Ouais. En certains événements, ça va être vraiment à la Cité des Sciences, donc on accueille tous ceux qui veulent venir. D'autres événements, ça va être beaucoup plus restrictif, comme les soirées de contribution. On accueille que les gens qui viennent contribuer à des projets libres. Et puis après, il y a les apéros, les villages, où on va un peu partout. Et là, c'est ouvert vraiment à tous.
Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais je vais quand même rappeler ce que tu as cité. Deux événements récurrents, mais on va les préciser. Donc, les événements à la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est les premiers samedis. Alors, c'est facile de s'en souvenir. C'est les premiers samedis du mois. Donc, on va supposer que le prochain a lieu le... Tu vérifies ? Le 6 avril 2019.
Mais 4 jours.
On est mardi. Donc, c'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie, au Carrefour numérique à partir...
De 14h.
De 14h. Je cherchais si c'était 13h ou 14h.
On se retrouve à 13h pour manger à la pizzeria, puis après, on va bosser.
D'accord. Donc les personnes qui viennent se faire sensibiliser au logiciel libre, vous avez l'information secrète de... Alors, maintenant, il vous reste à trouver le nom de la pizzeria et l'adresse, mais je pense que Magali vous la donnera. Tu as parlé des soirées de contribution. Alors, les premiers samedis, donc on va supposer que c'est un public qui est plutôt néophyte qui découvre. Voilà. Les soirées de contribution, et on y reviendra tout à l'heure quand même, parce que c'est important, parce que c'est un public un peu différent, c'est comment contribuer au logiciel libre et pas forcément d'un point de vue technique. Donc là aussi, c'est récurrent dans le sens où c'est chaque jeudi, donc à la célèbre FPH, parce qu'on le cite très régulièrement dans cette émission, dans le 11e arrondissement de Paris, donc c'est à 19h. Donc la prochaine a lieu jeudi.
On est toujours 4
à avril, à partir de 19h. Et puis tu as cité des événements, c'est-à-dire la présence de bénévoles du GUL à des événements qui peuvent être très variés, comme par exemple l'espace numérique de la fête de l'UMA, ou des salons un peu plus professionnels, comme par exemple le POS à Paris, le Paris Open Source Summit à la fin de l'année. Oui, je sais, je cite des événements des fois, comme ça. Côté Aldil, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est un peu différent ?
Côté Aldil, en fait, elle a été créée pour gérer l'événement qui a lieu tous les ans, du coup, qui est les JDLL, les Journées du Libre Lyonnais.
D'accord.
Et après, en fait, on a développé d'autres événements plus réguliers, en fait. Donc, tous les jeudis, par exemple, on a des permanences dans une MJC sur une maison jeune et...
culture.
Et culture.
Déjà, c'est de la culture.
C'est ça, sur Lyon. et où les gens peuvent venir, qui sont des jeudis bidouilles, c'est ouvert à tous, et on a les lundis aussi, ou dans une autre MJC de Lyon, et voilà. Et puis après, on accompagne aussi des MJC pour migrer sous Linux, et on a aussi une fois par mois une conférence qui a lieu le jeudi soir, plus 2-3 install parties dans l'année, et 2-3 salons où on défend le logiciel libre, quoi.
La conférence, c'est à la maison du Rancy, c'est ça ?
Maison des Rancy, ouais, Maison pour tous des Rancy.
Maison pour tous des Rancy, ça me dit quelque chose, que j'y suis déjà intervenu justement. Donc on voit quand même des événements assez variés, avec comme des permanences. C'est-à-dire que c'est important pour les personnes qui nous écoutent de se dire que ces groupes d'utilisateurs généralement proposent des permanences. Alors je précise que même si on a des représentants et représentantes de Paris, l'Essonne et puis Lyon, évidemment, il y a beaucoup plus il y a de nombreux groupes de GUL qui existent. Le site de référence pour les trouver, c'est un site qu'on cite à chaque émission également, c'est l'agenda du libre, hein, agendadulibre.org, sur lequel vous pouvez faire une recherche. Alors, il n'y a pas que les GUL, d'ailleurs, il y a d'autres structures qui sensibilisent au logiciel libre. Donc, normalement, dans votre région, on va dire que vous avez un GUL qui ne doit pas être très loin, hein, peut-être pas à 500 mètres, mais peut-être pas forcément très loin, et que globalement, vous allez retrouver des mêmes types d'activités avec des permanences, des conférences, la présence à des ateliers. Voilà, donc je le précise, si vous cherchez, vous êtes dans une région que, par exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, à Montpellier, ben, vous pouvez aller voir Montpellier Libre. Et puis, si vous êtes dans une région où vous ne savez pas qu'il en existe un, vous allez sur l'agenda du Libre. Magali.
Oui, agendadulibre.org/organisation en pluriel. Vous tapez votre ville, votre département, vous la trouvez. Et ils font aussi des apéros.
Alors,
c'est une activité dont on n'a pas parlé, alors que c'est alors, quand même assez
c'est,
fédérateur.
C'est une activité dont on parle à peu près à chaque émission, parce que c'est vrai que c'est une activité fondamentale pour la sensibilisation au logiciel libre et pour le partage. Hein, parce que alors, dans l'ordre des apéros, on ne partage pas que les logiciels, on partage d'autres choses. Romain, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, ce qui est important à dire aussi, c'est que c'est ouvert à tous. Et pas seulement aux membres des associations. Généralement, on accueille aussi les gens qui ne sont pas membres. Certains adhèrent justement à ce moment-là, mais ce n'est pas une obligation d'adhérer. C'est un partage avant tout, quoi.
Voilà. Alors, c'est important de le préciser, parce que finalement, ce n'est pas des services quelque part. Hein, c'est ouvert à toute personne. Il peut y avoir peut-être des groupes qui fonctionnent d'ailleurs différemment, mais en tout cas, vos trois groupes, effectivement, fonctionnent de cette façon-là. Alors, sur la partie JDLL dont tu parlais tout à l'heure, donc les journées du logiciel libre, on ne va pas trop en rentrer dans le détail, parce que sinon, ma collègue Isabella, qui fait sa chronique tout à l'heure sur ce sujet avec toi, se dira de quoi je peux parler, mais on en parlera parce que c'est un événement important et en plus très très sympathique. Il pourrait y avoir participé de nombreuses fois. Je trouve que c'est un des événements les plus sympathiques qui existent en France. Même si les autres événements sont sympathiques, mais en tout cas, voilà, l'organisation est assez fiable, il y a du public, c'est varié, mais on laissera Isabella évidemment en parler. Alors, vous êtes bénévole, une caractéristique des GUL par rapport à d'autres structures, par exemple à l'April, on n'est pas un GUL en tant que tel, nous on fait de la promotion de la défense en général, et on a une autre caractéristique, c'est qu'on a une équipe de 4 personnes dans l'équipe salariée. Donc, à ma connaissance, je ne sais pas si c'est, mais je pense qu'il y a très peu de GUL qui ont des personnes salariées. C'est plutôt sur un mode bénévole.
Moi, je n'ai pas de salarié, ou alors c'est au black, hein, parce qu'on ne paye rien.
Magali, c'est en direct.
Non, pas de salarié du tout, c'est compliqué.
Voilà, de mémoire, effectivement, enfin, je ne suis pas sûr qu'il y ait des structures. En tout cas, dans les GUL, je ne pense pas qu'il y ait des structures qui ont des salariés. Donc, c'est important aussi, parce que quand les personnes qui viennent vous voir à des événements... je suppose que ça se passe toujours très bien, mais il faut que les personnes quand même aient en tête qu'ils ont en face d'elles des personnes bénévoles qui donnent de leur temps. Alors justement, ça me fait penser à une question, parce que vous avez quand même des profils très différents, parce que c'est ça qui est intéressant, parce que Magali Garnero, donc tu l'as dit, tu es libraire, Didier Clermonté, toi tu es, bon, aujourd'hui tu es retraité, et Romain, toi tu as une formation d'informaticien.
Oui, tout à fait.
Voilà, et même dans le libre, je suppose.
Non, pas forcément dans le libre, mais je suis sensibilisé au libre depuis longtemps.
Depuis longtemps. Et donc, trois profils assez différents. Alors, finalement, qu'est-ce qui vous motive chacun et chacune à contribuer dans un GUL ?
Le partage de la connaissance.
D'accord. Enfin, on fait un premier tour de table. Didier.
Se rendre utile pour un retraité, trouver un but et être efficace, faire quelque chose, quoi.
D'accord. Romain.
Permettre de partager la connaissance de l'informatique, qui n'est pas forcément aisée pour tout le monde, en fait. Et c'est vrai que non, c'est vraiment le leitmotiv pour moi, quoi.
D'accord. Alors ça me fait penser à la chronique de Vincent Calam la semaine dernière, que je vous encourage à écouter, qui justement était sur le fait de partager ce qu'on découvre. C'est-à-dire, lui, il parlait des trucs et astuces dans l'utilisation d'un logiciel. Mais là, effectivement, il y a le partage. Et ça fait penser aussi à une autre chronique donc, de Véronique Bonnet, qui sera diffusée la semaine prochaine, qui était intitulée « Partager est bon ». Donc c'est le partage, c'est l'entraide. Toi, Didier, parce que bon, je sais un peu comment Magali est arrivé dans le logiciel libre. Bon, on va pas révéler. La semaine dernière, j'ai révélé un petit nom d'un de mes invités qu'on connaît depuis longtemps. On va pas rentrer dans tous les détails, mais on se connaît effectivement depuis quelques années. Didier, toi, qu'est-ce qui t'a amené au logiciel libre dans ton parcours ?
Bien, professionnellement, j'ai été vite confronté aux limites des logiciels propriétaires. Un logiciel de calcul de béton armé, il n'y en a pas tellement. Et puis en plus, s'ils ne conviennent pas, on ne peut rien faire, on est coincé. Donc je me suis dit, il faut que je me fasse les miens et il faut qu'on puisse les modifier, l'analyser, savoir ce qu'il fait.
D'accord. Alors je précise aussi que maintenant tu participes à une autre activité dont on parlera dans 2 semaines, donc le 16 avril, mais pas avec toi, avec d'autres personnes, le chaton de l'April, donc dans le cadre du... Alors on va faire un test, est-ce que Magali se souvient de ce que veut dire chaton ? Généralement tu es la spécialiste.
Alors le problème de chaton, c'est que... Alors dans le chaton, c'est le collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires.
Voilà.
Par contre pour le chapril, je ne sais pas exactement parce que vous avez choisi un acronyme chapril, mais comme ça change suivant qui en parle...
Alors voilà. En tout cas, donc, le projet chaton avec un S, donc chaton.org, initié par Framasoft, vise à offrir des services éthiques, loyaux, libres, en alternative aux services des GAFAM. Et le chaton de l'April s'appelle chapril. Alors il peut y avoir plusieurs significations. Bon, bah, ça vient sans doute une contraction de chat et d'april. Et donc c'est chapril.org. Il y a actuellement 4 services, mais d'autres vont venir. Et donc toi et Didier, notamment, tu contribues sur 2 de ces services, le DAT et le
PAST.
Et le PAST, c'est-à-dire la... permettant d'échanger de façon sécurisée des données. Donc voilà, tu t'investis très largement dans le logiciel libre, au-delà en plus de ton activité de l'INES. Je tenais à le préciser parce que voilà, on peut contribuer sans forcément être informaticien ou informaticienne ou avoir des connaissances techniques. Donc l'EGUL, c'est principalement des bénévoles, vous accueillez tout public. Est-ce que vous travaillez sous un mode de partenariat ? C'est-à-dire que alors, Parinux, par exemple, a une sorte de partenariat avec la Cité des Sciences, parce que finalement, la Cité des Sciences accueille Parinux et d'autres groupes et d'autres structures lors de ce qu'on appelle les premiers samedis, puis globalement lors des conférences. Mais est-ce que vous avez l'occasion de travailler dans des partenariats, par exemple, pour sensibiliser des publics différents ? Je ne sais pas.
Oui, dans le cadre de la Maison pour tous des Ranciers, en fait, où c'est vrai qu'on intervient beaucoup chez eux. Et effectivement, ils ont des espaces numériques publics, des espaces publics numériques qui se tiennent à peu près tous les 6 mois, et dans lesquels on va faire, par exemple, une install party. Et c'est vrai qu'on a aussi des partenariats avec d'autres MJC ou d'autres maisons pour tous, où en gros, ils adhèrent à l'association, on vient et on encadre les gens pour leur installer Linux, on intervient plusieurs fois pour les accompagner. Quoi.
D'accord. Inès, vous avez des partenariats ?
Avec le RERS, Réseau d'échange réciproque de savoir.
D'accord.
On est basé, notre adresse légale est chez eux, et en échange... tous leurs postes sont sous Ubuntu et c'est moi qui les entretiens, qui assure la maintenance des postes. C'est un réseau d'échange de savoir. Et voilà.
D'accord. Magali ?
On va reciter la FPH nous reçoit tous les jeudis soirs. On a aussi des partenariats un peu temporels, ponctuels, avec l'Université Paris-Descartes. 2 fois par an, on va leur faire des install parties. On va aussi aller au Geek Ferries.
Ça a pas tôt. Alors, les fameuses... Explique-nous ce que sont les Geek Ferries.
Alors, les Geek Ferries, c'est un des festivals que je préfère parce que j'y vais en tant qu'informaticienne, mais je pars qu'avec des gens qui ne le sont pas. Et en gros, c'est le festival de l'imaginaire. Donc, on va trouver des fans de tout ce qui est manga, d'Harry Potter, de fantastique, et ainsi de suite, qui se costument ou pas et qui sont en fait hyper réceptifs à ce qu'on leur dit. Leur liberté, c'est très important. Même si eux ne respectent pas forcément le droit d'auteur. En tout cas, ils aiment bien savoir ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire, et ainsi de suite.
Et ça se passe où ?
Alors, ça se passe à Selles-sur-Cher.
Alors, c'est situé où pour les personnes qui ne maîtriseraient pas la géographie ? Alors, je vois que Magali, qui a pourtant été plusieurs fois...
Ça se passe à environ à 4h15 de Paris, en voiture.
Dans quelle direction ?
J'en sais rien.
D'accord, ok. Bon, Selles-sur-Cher, vous cherchez
après
sur un
Orléans.
Moteur de recherche, après Orléans.
Après.
Et c'est en
juin. Et cette année, ça sera les 8-9 juin.
D'accord. Alors, comme on ne peut pas être à la fois sur le webchat et autres, on va demander aux gens qui sont sur le webchat de nous chercher où est Selles-sur-Cher. On va préciser que la FPH, alors on n'explicite pas l'acronyme à chaque fois parce qu'il est assez long, et puis c'est devenu un mot-clé carrément la FPH, mais sinon ça veut dire la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme. On me signale aussi que je n'ai pas explicité GAFAM. Bon, GAFAM, c'est un peu l'acronyme pour Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. En fait, c'est tous ces géants du du net, de l'informatique, en fait, qui font commerce notamment de vos données ou de vos libertés. Et quant à BSD, bah, initialement, ça veut dire Berkeley Software Distribution. C'est un système d'exploitation libre qui vient de du monde universitaire américain. Mais pareil, BSD, c'est un mot-clé maintenant qui est effectivement largement utilisé, un peu comme GNU. On n'explique pas ce qu'est GNU, mais en fait, GNU, c'est un acronyme récursif pour GNU is not Unix. Et Unix est un système originellement multitâche, multi-utilisateur. Enfin, j'encourage les gens qui s'intéressent à cette histoire de l'informatique qui est passionnante de rechercher, notamment sur les pages de Wikipédia. Ce qui me fait penser que la semaine prochaine, nous parlerons à nouveau de Wikipédia. Alors, nous allons bientôt faire une petite pause musicale. Donc, on a parlé, oui, donc on va quand même finir sur les partenariats. Donc, je dis ça aussi pour encourager les autres gules à aller chercher des partenariats. Alors, un partenariat qui paraît à peu près... qui est assez logique et qui rejoint une autre activité de l'April dont parlera tout à l'heure Isabella, vous voyez ce talent pour faire des liens entre les différents sujets, qui est évidemment libre en fait. Un partenariat classique, c'est avec les structures d'initiation à l'informatique, hein, les espaces publics numériques ou quel que soit le nom qu'on leur donne, comme des cyberbases. C'est des endroits où voilà, les gens viennent se sensibiliser à l'informatique, s'initier à l'informatique. Et il y a beaucoup de ces espaces publics numériques qui font leur formation, leurs initiations sur logiciel libre. Et les GUL peuvent trouver là un mode de partenariat assez pratique et utile. Tout simplement parce que bah, y a des ordinateurs qui sont déjà disponibles. Assez souvent, c'est en dual boot. Je vais par exemple parler de ma ville, Saint-Denis, cyberbase de Saint-Denis, donc place de la Résistance, et c'est en double amorçage. Alors dual boot, c'est-à-dire double amorçage. C'est-à-dire qu'on peut démarrer soit un système d'exploitation privateur, soit un autre système d'exploitation libre, comme par exemple Debian GNU Linux dont on a parlé, ou Ubuntu dont on a parlé déjà dans une émission. Et donc voilà, les ordinateurs sont déjà présents, vous avez des personnes là qui peuvent aider, et puis vous pouvez faire des événements soit récurrents, donc des permanences quelque part, ou des événements ponctuels. Par exemple, bah, des samedis du libre ou des dimanches du libre ou des mardis soirs du libre. Donc voilà, c'est des événements importants et ça permet de toucher un public en plus qu'on ne toucherait pas forcément directement. Tu voulais réagir, Didier ?
Nous, à l'INES, samedi prochain, on fait une install party. On a mis des annonces dans le journal local. Bon, on va voir si on attire du monde.
Alors, une install party, ce qu'on appelle une fête d'installation, même si ce n'est pas forcément un côté festif, c'est que des gens, des personnes viennent avec leur ordinateur. Alors, ça peut être leur ordinateur portable, ça peut être leur tour, et elles vont être accompagnés pour installer un système d'exploitation libre. Ce n'est pas forcément les gens bénévoles qui vont le faire, c'est accompagné de manière aussi à ce qu'il y ait vraiment un partage de la connaissance du savoir. On encourage les personnes qui viennent à faire des sauvegardes de leurs données avant au cas où, parce que ça reste de l'informatique, hein, de toute façon, hein, ce n'est pas la magie. Alors, je vais donner la parole à Magali, mais juste avant, je vais préciser donc que la selle sur chair, c'est en Loire-et-Cher. Voilà.
T'avais trouvé,
ah, c'est ce que tu voulais dire.
Non, mais...
Non. Alors, je te laisse intervenir et puis après, on fera la pause musicale.
Ah oui, les partenariats, ce n'est pas forcément avec des lieux. Hein. Nous, en tant que GUL, régulièrement, on a exposé des choses qu'avait fait de l'April, comme l'Expo Libre. On a aussi retransmis à nos adhérents la lettre ouverte de la Quadrature. Bref, en tant que GUL, on peut servir de ce que font les associations nationales pour les relayer ou on a participé à Libre en Fête. Bref, on peut servir de ce que vous faites, vous, à l'April, pour animer des événements ou même pour transmettre des informations.
Alors, on pense notamment aux campagnes du pacte du logiciel libre. Lors des élections, on encourage des candidats et candidates aux élections à signer un pacte en les engageant à promouvoir et à défendre le logiciel libre. Et évidemment, ce n'est pas l'April avec sa petite équipe de salariés et ses nombreux bénévoles quand même.
Mais qui sont merveilleux.
Mais qui sont merveilleux, effectivement. Surtout mes collègues, hein, parce que bon, moi, c'est un peu... en tout cas, voilà, il y a un relais d'informations et d'action par les locales, parce que voilà, il y a une action nationale et puis il y a une action locale. Donc effectivement, tu as tout à fait raison de préciser qu'un partenariat n'est pas forcément avec un lieu physique, ça peut être avec une autre structure ou ça peut être dans un cadre d'un projet. Alors nous discutons, mais le temps avance et là je sens qu'on veut une pause musicale, donc nous allons lancer une pause musicale, le temps pour moi de retrouver le titre. Voilà, ça s'appelle Rats par Frankie Barbano et on se retrouve juste après. Above the sky. Écoutez toujours Cause Commune sur 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Je suppose que les gens de la région de Lyon écoutent avec attention Romain Volpi, donc pour l'ALDI, l'association lyonnaise pour le développement de l'informatique libre. Toujours aussi en compagnie donc, de Didier Clermontet, de l'INES, donc le logiciel libre en Essonne. On va citer d'ailleurs le site web de l'ALDIL, on a oublié aldil.org, ouais. L'INES, l'INES.org, et Magali Garnero, dite Bouquinette, pour Parinux, donc le groupe, le GUL de Paris, et de sa région, et c'est parinux.org. Et Magali est tout à fait sympathique, parce qu'en fait, elle lève le doigt pour intervenir, donc Magali.
Bah oui, parce que j'espère que des Lyonnais et des Stéphanois te regardent, parce que t'es magnifique, t'es en costume.
Ah
quoi,
non, on avait dit qu'on ne balançait pas, on ne touche pas aux cheveux, ni aux... ni à la façon dont les gens s'habillent. Mais c'est vrai qu'il est, il est magnifique. Romain Volpi, il parlait de... Évidemment, Didier était aussi magnifique avec, dans un autre style. Alors, nous venons d'écouter donc Rats par Franky Barbano. Donc, évidemment, c'est sous licence libre. Les références sont sur le site de l'April, donc april.org. Et nous parlions avant la pause des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Donc, les GUL, on avait parlé un petit peu des partenariats qui pouvaient être... des partenariats avec des lieux physiques, mais également avec des projets ou d'autres structures. J'en profite pour signaler que la lettre ouverte dont parlait Magali tout à l'heure sur la quadrature du net, je suppose que c'est la lettre ouverte contre la censure terroriste, le projet de règlement terroriste censure sécuritaire.
Exactement.
Alors j'en profite donc tout de suite, même si je le rappellerai à la fin de l'émission, que le vote en commission des affaires des libertés publiques au Parlement européen aura lieu lundi prochain, le 8 avril, et que toutes les informations pour se mobiliser, pour comprendre l'enjeu de ce dossier donc, de censure sécuritaire sont sur le site de la quadrature du net, donc laquadrature.net. Donc on va revenir à notre sujet sur les GUL, les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Donc on a vu que ça visait des publics très variés, que le mode d'organisation de ces groupes était principalement du mode bénévolat, qu'il y avait des rendez-vous réguliers, des permanences. Alors des fois c'est tous les 15 jours, des fois c'est toutes les semaines, tous les mois à Paris, et puis évidemment dans les autres régions. Il y a des événements ponctuels importants, on en reparlera tout à l'heure, notamment avec les journées du logiciel libre de Lyon qui approchent, donc qui auront lieu ce week-end. Là, on va peut-être parler un petit peu des personnes qui voudraient contribuer à un GUL. Quelles compétences il faut pouvoir contribuer à un GUL pour contribuer à ces activités. On a bien compris le public que vous visiez. Voilà. Est-ce qu'il faut des connaissances techniques? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de connaissances techniques et qui veut simplement partager le savoir, comme vous l'avez tout à l'heure dit, ou aider, comme l'a dit Didier? Donc voilà, quelles sont les compétences pour pas contribuer à la vie d'un GUL?
Personnellement, sur la LDIL, on ne cherche pas forcément de compétences particulières, du moins pas de compétences techniques. On cherche des personnes motivées, en fait, et qui sont prêtes à donner un peu de temps en temps et parler du logiciel libre aux gens. Pendant des install parties, effectivement, on a besoin de personnes techniques. Mais même une personne non technique, elle peut aider, même pour les JDL, par exemple, en venant accueillir les intervenants, en venant parler avec les personnes, aller prospecter un petit peu pour voir les gens, pour leur demander de venir aux événements ou des trucs comme ça, quoi. Il n'y a pas besoin d'une compétence particulière, en fait. C'est ça qui est l'avantage des GUL et du libre en général, quoi.
D'accord. Didier, Magali? Didier?
Bah, nous, on est quand même d'abord beaucoup plus petit que mes deux amis.
C'est pas la taille qui compte.
Oui. Pour aider les gens, j'ai quand même besoin de gens qui soient un peu techniques.
Excusez-moi, on est quand même parti dans une barre de rire. Mais alors, il y a des émissions. Là, je pense que les personnes qui écoutent l'émission régulièrement se disent cette émission elle est particulière, elle n'est pas comme les autres. Je pense que c'est en grande partie dû aux personnes invitées. Mais ceci, ça me pose une question que je vais poser et que vous me répondrez après. Tu disais qu'effectivement, tu n'as pas la même taille que l'Aldig ou Parinux au niveau l'INES. Donc la question pour tous les trois après, c'est en fait combien de membres bénévoles font partie de vos groupes. Mais donc, on continue sur la partie compétences. Vas-y, Didier.
Oui, donc, pour aider les gens, j'ai besoin de gens qui s'y connaissent un tout petit peu. Donc, on peut soit venir se faire aider, soit on aide, mais pour aider, ben, il faut quand même maîtriser un tout petit peu, sans ça, on n'aide pas. Quoi, voilà.
Alors, est-ce que justement, et après je passe la parole à Magali, est-ce qu'une personne qui découvre le logiciel libre et qui se dit ce monde de partage, d'entraide me plaît bien, je voudrais un peu contribuer à un GUL, peut, comme l'a dit Romain, participer sur l'accueil, sur l'accompagnement des gens, sur la prospection? J'aime beaucoup ce terme prospection, c'est peut-être dû au fait que tu es habillé comme ça aujourd'hui. mais si une personne souhaite aller un peu plus loin, donc pour aider à l'accompagnement lors d'une fête d'installation, est-ce que vos groupes organisent des sessions pour les, entre guillemets, les former, ou en tout cas leur expliquer un petit peu les bases, leur permettant de leur mettre le pied à l'étrier quelque part? Didier?
Moi, j'explique ce que je fais au fur et à mesure. D'accord. Maintenant, ça reste quand même assez limité, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui a commencé à apprendre, après, il peut apprendre aux autres. C'est une autre forme de partage, parce qu'une fois, tu l'as vu une fois.
Oui. Parinux, est-ce que vous avez ce genre de
système? Alors, nous, on a besoin de tout profil.
D'accord.
Pour les premiers samedis du libre, on a besoin de personnes qui accueillent, on a besoin de personnes qui installent, on a besoin de personnes qui soient suffisamment douées pour enlever les bugs qui sont créés, parce qu'il y a toujours un bug qui se glisse dans une installation. Parfois on a des besoins de personnes qui seront là avant et après, qui n'ont pas besoin de savoir faire grand-chose, juste d'être là et d'aider à porter des colis, des câbles, des ordinateurs. C'est tout bête, mais c'est indispensable.
D'accord. Alors tout à l'heure, tant qu'on est à la question de la contribution, tout à l'heure, nous parlais une des activités de Parinux, c'est les soirées de contribution. Alors je ne suis pas sûr que beaucoup de GUL pratiquent ce genre d'activité, car finalement, c'est un peu le niveau au-dessus quelque part, c'est donc d'encourager des personnes à venir contribuer au logiciel libre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne?
En fait, en juillet 2014, on se retrouve avec Emmanuel Seyman, qui est très actif dans la communauté, que ce soit chez Fedora, chez Perl, chez Pense à Linux. Et on se dit
chez Parinux aussi, c'est l'ancien
président.
C'est
l'ancien président de Parinux. Et on se dit, ça serait bien que des fois, on se donne des petits temps juste pour nous, entre contributeurs, pour faire avancer des projets. Et là, que ce soit du code, que ce soit de la traduction, quelle que soit la compétence, mais juste prendre un projet et le faire avancer. Lui, je sais qu'il s'intéressait pas mal aux journées Perl, qui allait avoir.
Perl, on va préciser que c'est un langage de programmation.
Exactement. Et là, il faisait un événement autour de cette journée-là, et s'était rendu compte que l'année précédente, il avait fait ça depuis chez lui, et que ça n'avait pas avancé aussi vite qu'il voulait. Et moi, je me suis rendu compte que pour certains événements aussi, on avait besoin de se retrouver et de discuter ensemble, de contribuer à des projets. Ce qui est amusant, c'est que c'est une réflexion qu'on a eue bien avant Contributopia de Framasoft. Et on s'est dit, on va mettre
Est-ce que tu peux expliquer en une phrase
Contributopia?
Si tu as compris.
Alors,
ce qu'est Contributopia de Framasoft.
Alors, le Contributopia de Framasoft, il y a énormément d'objectifs et de points de vue différents. Moi, je l'ai compris de telle manière, c'est de permettre de rendre les gens acteurs dans leur informatique. Donc, ils peuvent contribuer, ils peuvent voir comment ça se passe, ils peuvent faire progresser les choses, ils peuvent se former à ce qui les intéresse et ils peuvent former les autres. On n'est vraiment plus dans une société de consommation, on achète bêtement, on consomme. On est vraiment dans une société de contribution. On devient actif, on devient réactif et du coup, après, on partage avec les autres. Voilà, alors, c'est ma vision à moi, hein. C'est pas forcément celle de Framasoft, parce que je vous dis, on est une trentaine de membres et pour chacun, on a une définition à peu près différente, mais l'idée est là.
Je pense que Framasoft sera notre invité en juin, je pense. Nous aurons notamment Pierre-Yves Gosset qui viendra présenter tous les projets de Framasoft.
Bande de vénards. Bref, nos soirées de contribution, on se retrouve avec Emmanuel et on décide de mettre ça au point parce que ben, ça nous évite de procrastiner chez nous. Et là, en étant à plusieurs, on est là, on peut soutenir pour faire avancer des projets. Et au départ, on décide de faire ça tous les 15 jours. On en parle à la FPH, donc à Vincent Calam, qui dit « Oh, bah ouais, pas de souci. Moi, en plus, le jeudi, j'ai rien de prévu, donc je vous accueille sans souci. » Et puis, on commence à se dire « Alors, on fait ça le premier et le troisième, le deuxième et le quatrième, on fait deux jeudis consécutifs. » Bref, pour que ce soit beaucoup plus simple, on s'est dit de faire ça tous les jeudis. Alors, plus simple, oui, c'est plus simple, comme ça, les gens ne se posent pas de questions, ils savent qu'il y a une soirée de contribution, mais après, c'est de l'organisation. Il est hors de question qu'on vienne tous les jeudis, tous, Emmanuel et moi, pour animer ces soirées. Donc, on cherche d'autres contributeurs qui seront responsables. Bon, il se trouve que dans la réalité, Emmanuel et moi, on vient tous les jeudis. Mais bon, on n'est pas obligé d'être là du début à la fin.
Parce que vous n'avez
pas
de vie sociale en dehors du logiciel, quelque part.
Si, si, on a plein de vie sociale, je te rassure. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de concoyette. Rien à voir, private joke, mais message subliminal.
On balance des suggestions d'invitation. Voilà, ok. Bah continue Magali, donc les soirées de contribution, voilà. Donc chaque jeudi à la FPH.
Voilà, et au départ, c'est juste des soirées de contribution. Plusieurs personnes venaient. En moyenne, on est à peu près une vingtaine. Des fois moins, des fois le double, tous les jeudis soirs. Cette année, en septembre, avec ma présidente Chris, on s'est dit, si on mettait une thématique à ces soirées, parce que les gens, ils veulent contribuer, mais ils ne savent pas forcément à quoi. Donc, on s'est dit que le premier jeudi, on allait faire des soirées Ubuntu et Ouvre-Boîte, donc pour aider les associations d'Ubuntu FR et l'association Ouvre-Boîte, donc que tu as peut-être déjà invité ou que tu as...
Pas encore, mais ça fera partie des personnes invitées, mais tu peux expliquer ce que fait Ouvre-Boîte.
Alors, Ouvre-Boîte, c'est des gens merveilleux qui encouragent les administrations à ouvrir leurs données, que ce soit du code, que ce soit des bases de données, ainsi de suite. Et quand ils n'ont pas de réponse de ces administrations, ils appellent la CADA, ils envoient un petit mail bien réglementaire avec des sujets... du texte bien écrit, en disant « on ne nous a pas répondu » ou alors « on nous a répondu par négative » et on argumente de pourquoi il faudrait libérer ces données-là.
Alors, on précise que la CADA, donc, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs et qui évidemment, enfin évidemment non, on a déjà traité ce sujet dans l'émission Libre à vous avec notamment le président de la CADA, avec Regards Citoyens et Next Impact. Donc vous allez sur le site de l'April, april.org, dans les archives de l'émission. Vas-y. Voilà.
Donc ça, c'est pour le premier jeudi. Mmh. Le deuxième jeudi, on a contacté Wikimedia France pour qu'ils viennent nous parler des projets différents. Alors, comme ils ont énormément de projets, ils peuvent tenir toute l'année sans souci. Le troisième jeudi, bah, c'est l'April qui se réunit à partir de 18h45 pour le groupe sensibilisation. Et à 20h30, voire 21h, si le groupe sensibilisation a pris trop de place, bah, c'est le groupe transcription qui se met à la tâche et qui transcrit pendant 1h30 des vidéos ou des émissions de radio comme celles qu'on écoute actuellement. Et puis le quatrième jeudi, bah, c'est Framasoft. Donc là, la soirée de contribution se transforme en contrib-atelier. Et bah, je salue les participants comme Sangoku ou comme Rijelka qui ont animé ces soirées de contribution-là.
D'accord, c'est une bonne présentation. On précise que les noms que tu viens de préciser, de citer, ce sont des pseudos de personnes.
Exactement.
Souvent dans la communauté du logiciel libre, même dans d'autres communautés, hein, l'utilisation de pseudos est assez récurrente. D'ailleurs, toi, tu es plus connu.
Oui, ça fait bizarre à chaque fois que tu dis Magali. Hein,
mais... Voilà, ça fait bizarre, mais bon, voilà. Et récemment, d'ailleurs, j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui me demande est-ce que tu connais une certaine Magali Garnero ? Parce que je ne trouve pas d'informations sur elle. Je lui dis bah, cherche Bookinet et tu trouveras un peu plus d'informations. Est-ce qu'à l'INES et à l'ALDIL, vous avez ce genre de soirée de contribution ou pas du tout ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
D'accord. Donc c'est... Alors, si d'autres groupes GUL ont ce genre de soirée de contribution, nous sommes preneurs de l'information parce que, bon, il y a effectivement, comme tu l'as dit, donc chaque jeudi à la FPH, mais on pourra annoncer sur la page de l'émission, sur le site de l'April, les autres soirées de contribution. Magali, tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est très particulier avec Parinux et ce qui explique qu'on fait ces choses-là, c'est que nous, la plupart des associations ont leur siège à Paris. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de nous pour marcher. elles fonctionnent, elles ont leurs adhérents, elles ont leurs lieux. Voilà. Donc nous, à Parinux, notre but, ça va être de les mettre en rapport les unes avec les autres. Je vois quand je suis allée à Montpellier Libre, eux, ils organisent plein d'événements avec des drapeaux April, des drapeaux, la quadrature, etc. Mais c'est eux-mêmes qui les animent. Alors que nous, on n'a pas besoin d'animer ce genre d'événement-là parce que les associations sont déjà là. Donc c'est une force qu'on a à Paris.
Exactement.
À part Wikipédia qui est à Lyon.
Et Framasoft aussi est à Lyon. Oui.
Le siège de Wikipédia est à Lyon, c'est
non,
ça ?
Non, c'est Framasoft.
C'est Framasoft, oui, c'est ce qui me semblait. Oh. Sinon, je demanderai la semaine prochaine à mes invités de Wikipédia de confirmer. On va revenir un petit peu donc, sur le public cible principal qui est quand même les personnes qui découvrent le logiciel libre. Est-ce que vous avez est-ce que sur vos sites web, vous avez un sort de support via forum ? Est-ce que vous faites du support par courriel ou c'est vraiment que du présentiel ? Romain, Didier ?
On fait du support par mail et on a aussi un mastodonte en fait où du coup on va répondre aux questions. Après, il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Généralement, on reçoit 2-3 mails de temps en temps, mais généralement c'est lors des soirées, lors des événements ou lors des soirées jeudi libre ou jeudi du libre ou des trucs comme ça où on va avoir des questions, mais très peu sur le forum.
D'accord. Et côté l'INES ?
On a une liste de diffusion sur laquelle chacun peut s'inscrire totalement librement. On a de temps en temps des questions, pas énormément.
D'accord. Et côté Parinux, est-ce que vous avez un support par mail ou par web ?
On a des questions, mais on les renvoie au samedi du libre ou aux APL. Les apéros parisiens du libre qu'on dit tous les 15 du mois.
Oui, parce qu'APL, ça veut dire ça peut vouloir signifier d'autres.
Mais on l'a choisi pour ça. Hein.
Ah, vous l'avez choisi pour ça. Alors, ce qui me fait penser que un autre événement important dans la vie d'Aigule et même des organisations du logiciel libre, c'est les fameux apéros. Hein. Donc, par exemple, à l'April, on a un apéro par mois, un vendredi. Donc, la date du prochain n'est pas encore fixée. Donc, côté Parinux, c'est facile, c'est le 15 du mois. L'INES, vous avez plus des permanences, vous n'avez pas d'apéro. Et Lyon, de temps en temps, vous avez des apéros à Lyon, à Lille. Pas tout le temps.
Non.
Peut-être
vraiment.
La veille des JDLL, peut-être
oui,
le vendredi.
D'accord. C'est ça.
Voilà. Mais par exemple, tout à l'heure, tu citais le GUL de Montpellier, Montpellier Libre. Chaque troisième jeudi du mois, c'est un apéro April. Et je sais que régulièrement, ils ont des apéros, ils accueillent d'autres structures. Je reviens à une question que j'ai posée tout à l'heure sur laquelle je n'ai pas eu de réponse, mais parce que je n'ai pas fait de relance. Et c'était la remarque de Didier, laissant sous-entendre que l'INES était un petit GUL par rapport au gros GUL que pourraient être l'Aldil et Parinux. Donc une question simple, en fait, ces structures, vous avez combien de bénévoles, enfin de membres actifs dans vos structures ?
De membres actifs qui viennent aider tout le temps.
Qui participent aux événements, pas forcément tout le temps, mais en tout cas qui participent.
Je dirais une vingtaine.
Une vingtaine ? Donc côté l'INES ?
Alors de cotisants, une dizaine, et puis un petit peu plus, quelques électrons libres qui passent de temps en temps, 15 quoi.
Magali ? Alors,
à Parinux, c'est un peu compliqué parce que les bénévoles, ils se mélangent. Ils sont souvent partis de plusieurs associations. Donc, dans ma bénévole, je vais peut-être compter des gens qui sont à FDN ou des gens qui sont à l'April ou ainsi de suite. Mais je dirais que ceux qu'on voit le plus souvent et pas forcément aux mêmes événements doivent être une trentaine. Peut-être un peu moins. Bah, on va dire qu'on est une trentaine, mais ils ne sont pas tous adhérents à Parinux.
D'accord. Donc finalement, l'INES, ce n'est pas forcément si petit que ça par rapport à d'autres structures du libre, hein, que ce soit Parinux et puis l'Aldil. Donc on va rappeler quand même, encore une fois, qu'il y a d'autres GUL qui existent, hein, le site de l'agenda du libre. Est-ce que vous êtes en recherche justement de nouveaux bénévoles ou est-ce que vous avez des perspectives de nouvelles activités ? Tiens. Est-ce que les activités que vous faites vous suffisent déjà et remplissent déjà votre vie évidemment, mais est-ce que vous dites, tiens, j'aimerais bien dans les années à venir développer un nouveau type d'activité, je ne sais pas, ouais. Des formations, l'Aldil, vas-y.
Les apéros. Non, mais réellement, on y pense, c'est juste qu'il faut qu'on trouve l'endroit, le lieu qui nous permette de le faire sans problème et qu'on puisse discuter tous ensemble sans avoir trop d'interférences autour, en fait, voilà, quelque chose de sympa et tout, mais il faut le mettre en place et ça demande des autorisations, des assurances et des trucs comme ça.
Ah, alors ça c'est une bonne question, tiens, question pratique en fait, une personne qui va, on va poser une question sur des GUL qui n'existent pas, justement, supposons qu'on est dans une région, alors je ne sais pas quelle région, mais une région où il n'y a pas de GUL actif, ou en tout cas pas proche, une personne se dit, ou des personnes se disent, je veux monter un GUL, est-ce qu'il faut statut juridique particulier ? Est-ce que c'est forcément une association ? Est-ce qu'il faut des assurances particulières ? Voilà. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait monter un GUL dans une région où, a priori, il n'y en a pas, selon l'agenda du Libre, le site de référence ?
Être à plusieurs.
Alors déjà, être à plusieurs. Donc
être au moins deux, ça c'est le minimum pour monter une association ou une entreprise. Mais surtout, être à plusieurs pour se motiver les uns les autres à faire des choses. C'est le premier conseil que je donne, c'est gratuit, c'est cadeau. Être à plusieurs, parce que si on est tout seul, c'est forcément voué à l'échec. Quand on est deux, on peut faire des brainstorming, on peut inviter deux réseaux différents, et donc ça a plus de chances. Après, dans les autres conseils, faire ce que vous aimez de faire. C'est-à-dire, ne faites pas une activité comme de la maintenance informatique ou du service après installation si vous n'aimez pas ça. Parce que du coup, ça deviendra vite une contrainte et vous vous arrêterez très, très rapidement. Donc, ne proposez que des activités que vous aimez. Et si c'est que des apéros, eh ben, n'organisez que ça. Peut-être que lors de ces apéros, il y a des gens qui discuteront avec vous et qui vous diront « c'est cool, moi j'aimerais bien faire ça ». Et du coup, pouf, nouvelle activité.
Didier ?
Alors oui, pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure sur les partenariats, le RERS, effectivement, on est basé chez eux, au point de vue légal. Mais par contre, physiquement, on fait nos réunions dans le club, un petit club informatique local de Juvisy, le club informatique de Juvisy, qui nous héberge. Donc, en somme, ils nous prêtent leur salle deux samedis par mois gratuitement. Mais ça, on a besoin de... Donc ça nous permet d'avoir pas avoir de frais.
D'accord. Donc se rapprocher d'une structure,
existante.
Une structure existante. Donc ça peut être celle que tu cites, ça peut être un espace public numérique comme j'en ai cité tout à l'heure. Voilà. Romain, est-ce que tu as des conseils sur l'habillement ? Est-ce qu'il faut forcément avoir un t-shirt ou est-ce qu'il faut avoir une costume, une cravate, une chemise blanche, le pauvre ? C'est Magali qui a commencé.
Je prends cher. J'aurais pas dû venir en fait. Non. J'ai pas forcément de conseils ici. Enfin, les conseils qui ont été donnés sont largement suffisants en fait. Il faut être plusieurs, faut être motivé, faut pas se lancer dans quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Sinon, c'est là où on va courir la catastrophe. Mais non, c'est les meilleurs conseils que je crois qu'on peut donner. C'est se regrouper à plusieurs et être motivé pour ce qu'on fait.
Magali ?
Pour revenir à ta question que tu avais posée juste avant, et comme il ne reste pas beaucoup de temps, je fais un appel. Nous, à Parinux, on s'est lancé pour devenir un chaton. Donc, on va être une portée de chatons du mois de juin. Enfin, j'espère, je croise les doigts. On va l'appeler Basse-Tête. On a déjà...
Vous allez l'appeler comment ?
Basse-Tête.
Basse-Tête, d'accord.
Voilà, comme la déesse égyptienne de la fertilité.
Ok.
Et donc, pour ce chaton, on cherche des cat-sitters. Donc, des gens qui voudront...
Cat-sitters. Qu'est-ce que ça veut dire, un cat-sitter ?
Alors, si tu vois ce que c'est qu'une baby-sitter ?
Ouais, à peu près, ouais.
Et bien, cat-sitter. C'est pour animer des services de notre chaton, que ce soit un date ou... Alors, je sais qu'il y en a déjà une dizaine à peu près, parce que comme on a Dino, Nicolas Chonte, qui nous a installé ça, il a installé un S-Cloud, enfin, il a installé énormément de choses, donc on a déjà pas mal. Mais on a beaucoup de services et on n'a pas assez d'animateurs, ce qui est à peu près courant chez les chatons. Donc je fais un appel, si vous avez envie de participer à notre chaton, je suis désolée, je fais de la concurrence à Chapril, n'hésitez pas, sachant que si vous êtes si vous êtes motivé pour venir chez nous, vous pourrez aussi être motivé pour installer le même service au Chapril, donc ça peut être sympa.
Et le principe des chatons avec un S, c'est justement le S, la multiplicité de ces services, plutôt que de dépendre d'un seul structure qui gère à la fois les services et vos données. On va bientôt passer à un sujet suivant, tout en restant avec un de nos invités, donc notamment Romain. On en était au niveau des appels. Est-ce que côté l'INES et l'ALDIL, vous avez des appels à faire passer, des besoins particuliers ? L'INES, Didier Carmonté.
Plus que les gens viennent plus, oui.
Que les gens viennent plus.
Oui. Après, bon, là, on a quand même quelques actifs. C'est sympa. Il faut voir que maintenant, là, on est plutôt dans une phase de renaissance de l'INES, qui a eu un gros passage à vide il y a quelques années, hein, qui avait quasiment mort. Là, pour l'instant, on redémarre un peu. Bon, espérons, on verra l'année prochaine. Hein.
Il est super modeste parce que la première fois que j'ai rencontré Didier, c'était à une AG de l'April. Il m'a dit je suis tout seul dans mon GUL, je m'ennuie. Et là, maintenant, ils font des permanences tous les mois. Vous êtes une vingtaine. Je veux dire, c'est pas juste une renaissance. Là. C'est génial ce que tu as fait avec ton GUL.
Historiquement, ça a été beaucoup plus gros. Hein. Il y a eu historiquement des réunions communes par Unix Linux, hein, il y a 15 ans.
On refait ça quand tu veux.
Ah bah, ils sont en train de prendre rendez-vous tous les deux. Là. Après, ça fait partie de la vie des GUL, même globalement des associations. Il y a des hauts et des bas. On connaît des associations qui aujourd'hui n'existent plus, ou en tout cas que sur le papier. Donc voilà, ça existe, hein, c'est la vie. Hein, je salue effectivement le travail mené notamment par Didier et puis les autres bénévoles de l'INES pour cette renaissance de l'INES. Donc côté Aldil, à part avoir du public samedi, mais on va en parler samedi dimanche donc à Lyon pour les Journées du Libre, on va en parler juste après que Isabelle là. Est-ce qu'il y a des besoins particuliers?
Je dirais plus de membres actifs, ça serait pas mal. Hein.
C'est, voilà, c'est assez traditionnel, on va dire, voilà. Avoir plus de membres actifs pour ne pas reposer sur la même petite équipe quelque part de gens surmotivés mais qui peuvent se fatiguer un petit peu.
C'est ça, tout à fait. Plus on a de monde, plus on peut organiser l'événement et surtout plus on peut avoir de monde et différent en fait et croiser plus de têtes.
Exactement. Je vous remercie donc tous les trois. Donc le site de référence donc pour trouver le GUL près de chez vous et lui dire de bouge ton GUL. Je le refais une deuxième fois. Donc c'est évidemment le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Je vais donc rappeler les sites web des trois GUL qui étaient présents ici. Donc côté lyonnais, donc c'est Aldil, aldil.org, l'INES, l'INES.org, Parinux, parinux.org. C'est assez facile, hein. Souvent ça se finit en .org. Et évidemment, il y a à peu près, alors sur l'agenda du libre, ça c'est de mémoire, je dirais 180 peut-être, 200 GUL répertoriés, moins. La moitié, alors peut-être que c'est toutes les organisations globalement.
À peu près un par département, les GUL, sauf certains départements, il y en a plusieurs. Mais effectivement, si tu rajoutes toutes les associations nationales, les tiers-lieux et ainsi de suite, on monte à 200. Ouais.
Voilà, donc on monte à 200. Alors je vous remercie tous les trois. Vous allez rester pour la suite et notamment Romain. Nous allons faire une pause musicale. Le morceau s'appelle S'il savait par Lostana et on se retrouve juste après.
Quand les amours l'ont vélin dans l'autre se bécote, je crains que replonge dans les vagues reculées du passé. Quand les couples s'ennuient, se grisent, se givrent, je pense à nous, notre entente, amitié tolérante. Quand les passants me dévisagent, je m'ignore, je m'en fiche, ramassis d'inconnus sur un monde, l'histoire d'amour. Quand le monde autour de moi tourne plus vite que le vent, je ferme les yeux et la magie, je te vois comme avant. S'il savait comme j'attends nos retrouvailles, s'il savait comme j'y crois, je t'aimais, tu me manques. Mais ils savent que tu me hantes, que tu m'écœures et me fatigues. Ils savent combien je rêve, combien je t'aime et te déteste. Quand les parents se déchirent, s'arrachent les petits frères, je m'attends derrière l'illusion perdue du bonheur. Quand les enfants jouent au docteur à papa maman, je pleure un peu trop déçu pour m'attendrir. S'ils savaient comme j'attends nos retrouvailles, s'ils savaient comme j'y crois, je t'aime et tu me manques. Mais ils savent que tu me hantes, que tu m'écœures et me fatigues. Ils savent combien je rêve, combien je t'aime et te déteste. Quand le grand, le beau, le très fort, le prince charmant te fait la cour, je ris, je pleure, je coule. Quand tu dis, redis, promets, retirez même pire, je fais comme si, je fais comme si. S'il savait comme j'attends nos retrouvailles, s'il savait comme j'y crois, je t'aime et tu me manques. Mais ils savent que tu me hantes, que tu m'écœures et me fatigues. Ils savent combien je rêve, combien je t'aime et te déteste.
Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur causecommune.fm partout ailleurs. Nous venons d'écouter donc S'il savait par l'Ostana. Les références sont sur le site de l'April, april.org. On va essayer de retrouver un peu de sérieux pour aborder le sujet suivant. Donc la chronique de ma collègue donc Isabella Vanni intitulée Le Libre fait sa com. Isabella est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Et la chronique Le Libre fait sa com a notamment pour objectif d'informer sur les actions de type sensibilisation menées par l'April, mais aussi l'occasion d'annoncer des événements libristes à venir. Et comme on a déjà eu l'occasion de l'annoncer, il y a un événement libriste qui approche à Lyon. Donc Isabella, je te passe la parole.
Merci Fred, bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, le 6 et 7 avril, il y a les journées du logiciel libre à Lyon. Et comme ça a été dit tout à l'heure, c'est un événement qui est devenu incontournable dans l'agenda libriste. Et c'est pour cette raison que l'April y participera. De deux façons. En fait, on va avoir un stand dans le village associatif. Et mon collègue Étienne Gonu, donc chargé de mission affaires publiques pour l'April, va aussi tenir deux interventions, va faire deux interventions dans la journée de samedi. On s'est bien rentabilisé. Donc d'abord, il participera à une table ronde qui a un superbe titre, Killing Meme Softly. Vous l'aurez peut-être compris, mais sinon je vais l'expliquer. C'est une table ronde consacrée à la nouvelle directive sur le droit d'auteur qui a été votée récemment par les parlementaires européens. Et pour rappel, cette directive contient malheureusement un article qui instaure en fait de facto le filtrage automatisé des contenus qui sont hébergés sur le web. Donc cette table ronde, c'est l'occasion de parler de ce sujet, de revenir sur la campagne qui a été menée contre cet article, campagne à laquelle l'April a bien évidemment participé activement, de faire le point aussi sur les prochaines étapes, les prochaines actions qu'on peut mener. Et autour de la table avec Étienne, il y aura aussi Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France, et une représentante du mouvement d'artistes créateurs fraîches. Donc cette table ronde se tiendra de 11h à 13h dans la salle de Rancy. Et la deuxième intervention d'Étienne est une conférence qui a pour titre « Le logiciel libre, un enjeu politique et social, discussion autour de l'action institutionnelle de l'April ». Et donc ce sera une présentation un peu plus globale des actions institutionnelles menées par l'April, donc directive droit d'auteur bien sûr, mais aussi priorité au logiciel libre dans l'administration publique. Par exemple, l'accord entre Microsoft et le ministère de l'Armée, l'accord dit Open Bar, sur lequel encore l'April a été très très active. Et aujourd'hui, voilà, on a l'occasion d'avoir avec nous Romain Volpi, donc bénévole actif pour l'ALDIL, donc l'association de l'utilisateur utilisatrice de logiciels libres sur Lyon, qui j'ai découvert aujourd'hui, qui est né exprès pour organiser les journées du logiciel libre, si j'ai bien compris.
Mais exprès pour...
Elle est née...
C'est ce que tu disais.
Oui, l'association, oui, elle est née exprès, oui, pour...
Je ne savais pas.
En fait, la première JDLL a eu lieu avant même la création de la Lille. Donc, voilà.
Ah oui, je me suis renseignée. En fait, ça existe depuis 1998 c'était pas organisé à la Maison pour tous, par contre.
Non, au tout départ, c'était organisé sur le campus de la Doua, en fait. J'ai perdu le nom de l'école qui nous accueillait, et maintenant effectivement c'est sur la Maison pour tous depuis quelques années, puisque maintenant on est partenariat avec eux sur les JDLL, notamment aussi avec Elise, et on organise en fait à trois cet événement.
Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'elle fait l'association Elise?
Elise, c'est un faille, c'est un fournisseur d'accès internet associatif local, et donc ça veut dire internet libre Lyon et Saint-Étienne. J'espère que je ne me ferai pas reprendre, mais normalement, c'est ça.
Je pense que c'est correct. Bon, en tout cas, quelqu'un va nous corriger s'il y a besoin. Et donc, ça existe depuis 22 ans désormais. On est à la 22e édition. Et le thème de cette année est particulièrement beau, écologique pour une terre communautaire. Donc, je voulais savoir un peu qu'est-ce que vous avez concocté pour l'édition de cette année. Pourquoi cette thématique et comment...
Alors pourquoi cette thématique? J'avoue que j'étais pas là quand ils ont décidé la thématique. J'ai rejoint qu'après
l'organisation de la GDL.
Non, au final, écologique, le partage, ça permet aussi d'avoir de l'écologie derrière, en fait. En gros, on peut appliquer le partage qu'on utilise pour le logiciel libre à toutes les ressources qu'on a sur Terre, en fait, pour l'appliquer à l'écologie au final. Et du coup, avoir moins de déchets, enfin, ouais, au final, c'est pas des choses dissonantes. Ça reste dans des thèmes assez proches au final.
C'est des philosophies très, très proches. Ça permet de proposer des styles de vie, d'actions alternatifs. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous proposez aussi une buvette responsable avec des produits du terroir. Il y aura la monnaie, il y a une monnaie locale qui peut être utilisée. Donc, c'est vraiment tout le...
Ça fait déjà plusieurs années, en fait. Chaque fois, la buvette est tenue par... enfin, depuis 2-3 ans, je crois, la buvette est tenue par un acteur local, en fait. Puisque c'est, au final, c'est important aussi de faire participer les acteurs locaux quand on organise nos événements.
Très bien. Je voulais savoir, en fait, le programme de cette année. Quelles sont les activités que vous proposez?
Alors, il y a des conférences sur les deux jours. On a 160 conférences, si je me rappelle bien. 80 ateliers, donc où des gens vont pouvoir venir participer aux ateliers. Justement, par exemple, on a des ateliers sur la découverte de Linux. En fait, en gros, ils vont apprendre à utiliser le logiciel ou des choses comme ça. On a aussi une install party qui aura lieu... durant tout le week-end, et on a aussi par exemple une session de certification qui se passe dans laquelle on a une réduction du coup en fait par rapport au prix normal de la certification sur le reste de l'année, qui est la certification LPIC en fait. Voilà.
Et quels sont les publics ciblés?
Alors ça va être du tout public, ça va être aussi du public enfant, puisqu'on a un pôle gone en fait.
Ah, j'allais te demander, c'est très bien ça.
Le pôle gone en fait, c'est l'enfant sur Lyon en fait, et du coup ça va être des ateliers pour les enfants. Et on a du coup tout public, du public un peu plus technique, parce qu'on a des conférences un peu techniques. On essaye de viser un peu tout le monde, en fait, pour qu'il n'y ait personne qui s'ennuie. Après, il y a aussi, c'est aussi une possibilité de rencontrer l'April, d'autres grands noms en fait, de la défense du logiciel libre en France, qui seront présents avec leur stand ou même qui feront des conférences. Voilà.
Il y aura un grand village associatif, effectivement. Je ne me souviens plus combien de stands sont prévus, mais
Je ne me rappelle plus, puisque je ne me suis pas occupé du pôle stand, j'avoue.
Mais je pense qu'il y a quelques dizaines, donc c'est plutôt pas mal.
Mais on a même des institutions en plus cette année. On a le Grand Lyon qui vient, puisqu'ils font de l'open data. Donc ils ont le droit à une conférence et un stand qui sera tenu par eux sur ce week-end.
J'ai vu qu'il y aura aussi la projection du film documentaire La Bataille du Libre, qui est sorti récemment. Donc ça fait une activité de plus.
Tout à fait, ça sera le dimanche en fin d'après-midi.
Et bien sûr, il y aura toujours les démonstrations des Fab Labs.
Oui, bien
ça,
sûr.
Ça, c'est assez récurrent, je crois, dans les journées du logiciel libre.
Alors ça, je ne me rappelle plus si c'est récurrent, mais il y avait déjà eu l'année dernière et il y aura aussi cette année dans le cadre des ateliers et sûrement aussi sur les stands, dans un espace, Fab Lab.
Est-ce que tu veux rappeler ce que c'est un Fab Lab? Je te laisse le faire, mais sinon je peux le faire.
Non, je vais te laisser la main.
D'accord. Donc un Fab Lab, on va dire, c'est une espèce de laboratoire, un tiers-lieu, donc un lieu où les personnes peuvent aller apprendre à construire, bidouiller, vérifier comment les objets sont faits, se faire aider pour en construire d'autres. C'est une autre façon, en fait, de partager la connaissance. C'est pour ça que les deux philosophies, le do it yourself, fais-le toi-même du Fab Lab, ça marche très bien avec le logiciel libre.
Si je peux préciser, l'un des Fab Labs les plus sympas se trouve au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et Fab Lab, ça veut dire laboratoire de fabrication, ça vient de l'anglais. Et donc, en tout cas, pour les Parisiens, enfin les Franciliens, on vous encourage à aller au Carrefour numérique du Cité des Sciences.
C'est... Ouais, mais à Lyon, on en a le LOL et le LOVE.
Ah, le LOVE, c'est un très beau mot. Mais je, laisse ouais. Je vous laisse poursuivre.
Très bien, donc on a bien placé le Carrefour numérique de Paris, mais c'est super. Donc on va rappeler, on va donner les informations pratiques pour les journées du logiciel libre. Donc ça se passe en week-end. Les horaires
10h-18h. Alors les conférences vont commencer à 10h le samedi, par contre elles commenceront à 11h le dimanche, ce qui permettra aux gens d'aller visiter un peu les stands aussi, puisqu'on on est bien chargé niveau conférences.
Magnifique. Et au niveau pratique, pour les personnes qui souhaitent participer, qui souhaitent venir aux journées du logiciel libre, il faut s'inscrire et on peut venir librement.
Aucune inscription, vous venez, on vous met un bracelet pour vous compter, pour savoir si ça marche bien, et c'est tout. Et rien à payer, pas d'inscription, vous venez. Et vous êtes les bienvenus.
Et si je veux savoir qu'est-ce qu'il y a comme programme, si je veux, ben je le trouve sur place.
Il y a un programme sur place, il doit y avoir des programmes actuellement déjà, même à la Maison pour tous d'Erancy, qui sont disponibles en version papier. Et sinon, il y a le site jdll.org sur lequel on peut trouver toutes les informations sur les programmes, sur ce qui se passe, quand et comment.
Et est-ce qu'il y aura des diffusions audio-vidéo ou est-ce que vous prévoyez de rendre disponible pour ceux qui peuvent pas, ceux et celles qui peuvent pas se rendre sur place?
Il va y avoir des captations sur certaines conférences.
Ah, c'est très bien ça.
Mais pour le coup, je sais pas comment ça va être diffusé.
Bah ça, on le découvrira et on mettra l'information à disposition. Sinon, j'aurais aimé savoir comme il s'agit d'un événement qui est organisé en fait bénévolement. Je suis plutôt épatée par la variété d'activités que vous proposez et c'est quand même un événement qui a besoin de financement. Donc je voulais savoir comment vous avez fait pour vous financer.
Alors l'ALDI prend en charge une partie chaque année, elle fait un don pour les JDLL en fait.
Donc c'est les cotisations des membres.
Ouais, grâce à la cotisation des membres. Après on va démarcher des institutions telles que l'Université de Lyon 1, le Grand Lyon et tout ça. Et le reste c'est du financement participatif à travers une plateforme de crowdfunding.
Est-ce qu'on peut encore vous faire des dons?
Non, c'est trop tard, ça finit il y a deux semaines.
Ok.
Je crois.
Pour l'année prochaine, non, c'est trop tard. D'accord. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose là, l'interview bientôt à sa fin?
J'ai rien à rajouter. Venez au JDL, nombreux, et participez, et voilà. C'est tout.
Très bien.
Écoute, merci Isabella, merci Romain. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta chronique?
J'aurais aimé, mais s'il y a plus de temps, je pense.
Alors vas-y, en quelques secondes.
Non, je vais profiter du fait qu'on participe aux journées du logiciel libre pour dire que l'April participe sur beaucoup d'événements au cours de l'année, donc des événements libristes ou des événements au grand public, et qu'on arrive à le faire grâce à nos membres qui, localement, répondent présents ou présentes à nos appels et qui nous permettent d'être du coup présentes sur plein d'événements. Et qu'en 2018, on a participé avec un stand à 17 événements. Donc, on a doublé par rapport à 2017. Et donc, j'ai souhaité remercier vraiment tous les bénévoles qui nous ont aidés.
Tout à l'heure, on parlait de Love, on les aime, les bénévoles, évidemment. Merci Isabella donc, pour cette chronique Le Libre fait sa com. Merci Romain pour cette précision, toutes ces précisions sur les journées du libre de Lyon donc, qui ont lieu ce week-end. Et maintenant, un petit jingle pour les annonces de fin avant. Avant la fin de l'émission, donc, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la campagne contre la proposition de règlement terroriste censure sécuritaire se poursuit. Donc, le site de référence est laquadrature.net. Le vote en commission des affaires liberté publique aura lieu, ou liberté civile, je ne sais plus exactement le nom exact, au Parlement européen le 8 avril. Et pour les personnes qui seraient intéressées pour en savoir plus, vous pouvez aussi réécouter l'émission Libre à vous du 12 mars. Nous avions deux personnes de la Quadrature du Net pour discuter de ce sujet. On parlait de sensibilisation tout à l'heure. Ce week-end se termine aussi un événement important, enfin plutôt des événements importants, plus de 240 événements dans le cadre du Libre en Fête. Donc libre-en-fête.net. Donc il reste encore quelques jours pour profiter de ces événements. Et là encore, c'est évidemment beaucoup de GULB justement organisent ces événements dans le cadre de ce Libre en Fête proposé par l'April depuis 2002. On a parlé tout à l'heure de la soirée de contribution au Libre, donc à la FPH jeudi soir, donc les JDLL, journée du logiciel libre à Lyon, ce week-end. Le premier samedi du Libre à la Cité des sciences et de l'industrie, bah, samedi, donc ouais, où que vous soyez, vous pouvez participer à plein de choses. Et évidemment, tous les autres événements, vous les retrouvez sur le site de l'agenda du Libre, agendadulibre.org. Donc notre émission va se terminer. Je remercie évidemment toutes les personnes qui ont participé. Donc Magali Garnero, dite Bouquinette, et à qui je promets effectivement de la cancoyote bientôt à la maison. Voilà. Romain Volpi pour l'Aldil. Didier Clermonté pour l'Inès, Isabelle Aveni pour l'April, et mon collègue Étienne Gonu qui non seulement fait des conférences à Lyon ce week-end, mais s'occupe aussi de la régie. Donc Étienne Gonu qui est en régie, merci. Je vous retrouverai sur notre site de l'April, donc april.org, toutes les références utiles. Donc il y a déjà une page, mais elle va être enrichie avec les références citées pendant l'émission. La prochaine émission aura lieu donc mardi 9 avril à 15h30. Alors notre sujet principal portera sur Wikipédia. C'est l'occasion d'approfondir la connaissance de cette encyclopédie libre, parce que nous avons déjà consacré une émission à Wikipédia, c'était le 5 mars 2019. Et d'ailleurs, l'émission sur Wikipédia sera diffusée ce soir exceptionnellement à 21h. Comme ça, vous pouvez, si vous ne l'avez pas écouté, vous remettre, écouter cette émission ou la réécouter. Nous aurons l'occasion, avec les mêmes invités, d'aller un peu plus en détail sur le fonctionnement à la fois de l'encyclopédie Wikipédia et de la fondation Wikimedia. C'est une demande des personnes qui ont écouté la première émission. Donc voilà, nous sommes à l'écoute des personnes qui nous écoutent. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve mardi prochain et d'ici là, portez-vous bien.